J'ai une très bonne question pour vous. Quelle est la différence entre faire partie de la famille d'Adam et faire partie de la famille de Jésus-Christ? Demeurez avec nous, la réponse va nous être donnée aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible.
Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647.
Bonjour, ici Caro. On a beaucoup de sujets à traiter aujourd'hui, mais ils tournent tous autour de la généalogie de Jésus-Christ. Voici des questions en rapport avec ces sujets. Est-il possible de trouver la personne de Jésus-Christ en lisant l'Évangile de Matthieu? Est-il important de lire les généalogies dans la Bible? Est-ce que Jésus-Christ est un descendant d'Abraham et de David? Est-ce que le trône de David lui revient? Est-il vrai que Christ est l'accomplissement des prophéties de l'Ancien Testament? Est-ce que toutes les parties de la Bible ont leur importance? Comment sommes-nous parvenus à faire partie de la famille d'Adam? Comment parvient-on à faire partie de la famille de Jésus-Christ? Pourquoi Rahab, la prostituée, a-t-elle été inscrite dans la généalogie de Jésus-Christ? Est-ce que Dieu abandonne ses enfants quand ils s'égarent? Les Saintes Écritures sont-elles toujours exactes? On aura beaucoup de réponses en peu de temps aujourd'hui. Le pasteur Régent Joly a ouvert sa Bible et les a toutes trouvées. Demandons à Dieu de nous aider à bien les comprendre. Prions. Merci pour ta parole, mon Dieu. Merci pour ces multiples sujets dans lesquels tu veux nous enseigner aujourd'hui. Parle à nos cœurs. Aide-nous à être réceptifs, mon Dieu. On a besoin de toi. Amen. À toi, Régent.
Merci, Caro. Chers amis, ce chapitre débute par la généalogie de Jésus-Christ et de son incarnation, c'est-à-dire sa naissance d'une vierge. La généalogie qui ouvre l'Évangile selon Matthieu ainsi que le Nouveau Testament est un des documents les plus importants de la Bible. Avant de poursuivre, allons dans la prière. Père Céleste, ouvre nos yeux et notre cœur à ta parole, afin que nous puissions connaître la personne de Jésus-Christ intimement. Puissions-nous voir que c'est un livre qui révèle notre merveilleux Sauveur, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ainsi soit-il. Oui, que l'étude de ce livre puisse nous conduire à une révélation de la personne du Christ. Job a résumé le cri du cœur de l'Ancien Testament. « Oh, si je savais où le trouver !» Job, chapitre 23, verset 3. Le Nouveau Testament répond à cette question. Le cri du Nouveau Testament est « Nous l'avons trouvé ! Oui, nous l'avons trouvé !» Puisse cela être aussi notre expérience. Puissions-nous le trouver en lisant et en étudiant ses pages? C'est ce que nous demandons au Seigneur Jésus-Christ. Une révélation de sa personne, c'est ce que nous avons besoin, vous et moi. En abordant ce livre, le livre de l'Évangile selon Matthieu, nous remarquons qu'il débute par une généalogie. Nous avons la généalogie d'Abraham à David, ensuite de Salomon jusqu'à la captivité babylonienne, et finalement de la captivité à Joseph le charpentier. On peut trouver les généalogies ennuyeuses à lire, mais elles sont très importantes. Rappelez-vous nos études dans la Genèse. Nous avions dit que le livre de la Genèse traitait des familles et explique leur importance. Ici, nous remarquons l'importance des généalogies en examinant celle qui est devant nous. Certaines personnes, lorsqu'elles lisent pour la première fois le Nouveau Testament, en commençant par Matthieu, décident que ce n'est pas le genre de livre qu'elles veulent lire en voyant la généalogie. Un aumônier dans l'armée a remarqué souvent ce comportement lorsqu'il donnait des Nouveaux Testaments à des soldats. Il l'ouvrait au début,
lisait quelques versets de la généalogie et mettait le livre de côté. Je ne peux pas le leur reprocher entièrement. Les trois autres évangiles, celles de Marc, Luc et Jean, sont peut-être plus appropriés pour ceux qui ne sont pas familiers avec la parole de Dieu. Il faut faire preuve de sagesse en distribuant les Écritures, mais cela n'amoindrit pas l'importance de cette généalogie. La suite du Nouveau Testament repose sur l'exactitude de cette généalogie. Cette généalogie établit le fait que Christ est le descendant d'Abraham et de David. Jésus-Christ fait partie du peuple de Dieu car il est de la postérité d'Abraham. Le fait qu'il est de la postérité de David confirme que le trône lui revient. Les généalogies étaient très importantes pour les Juifs. Dans le livre d'Esdras, les Juifs qui revenaient de captivité devaient présenter leur généalogie pour servir au temple. Ils cherchèrent leur titre généalogique, mais ils ne les trouvèrent point. Ceux qui ne pouvaient pas prouver qu'ils étaient de la tribu de Lévi furent exclus du sacerdoce. Donc, la généalogie de Jésus-Christ était disponible afin qu'on puisse la consulter. Elle devait être disponible au temple, parce qu'Israël était une théocratie, la religion et l'État ne faisant qu'un. Donc, il devait être possible de consulter la généalogie de sa famille. Bien des affirmations de Jésus-Christ furent contestées, mais jamais sa généalogie. Il aurait été difficile de le faire, car sa généalogie était accessible pour fin de consultation. Ceci est important, car la généalogie place Jésus-Christ dans une position unique. Souvenez-vous que Jésus a dit que le berger entrait par la porte de la bergerie, mais que le voleur sautait la clôture. La bergerie est la nation d'Israël, et Christ n'y est pas entré par effraction. Il est entré par la porte principale. Christ naquit dans la lignée de David et dans la lignée d'Abraham. Matthieu démontre que Christ est l'accomplissement des prophéties de l'Ancien Testament. Et ce fait est un détail de cette démonstration et nous devons nous y arrêter. Les généalogies faisaient partie des registres publics dans le temple jusqu'en l'an 70, au moment de la destruction du temple et de la dispersion des Juifs. Les ennemis de Jésus ont amplement eu le temps de vérifier la généalogie de Christ et remarquer qu'elle est exacte. Ce n'est pas sur ce point qu'ils ont pu contester l'autorité de Jésus. C'est une raison pour laquelle la généalogie est importante. Dans ce chapitre, le premier chapitre de l'Évangile selon Matthieu, enseigne que Jésus-Christ est né d'une vierge. Je ne m'oppose pas à ce que quelqu'un refuse de croire cela. C'est son droit. Cependant, je m'objecte à deux choses. Premièrement, un prédicateur doit croire à cette vérité. Si un prédicateur ne croit pas que Christ est né d'une vierge, il devrait plutôt vendre de l'assurance. Que les croyants refusent de croire que Christ est né d'une vierge ne me dérange pas. Je m'objecte aussi au fait que l'on affirme que la Bible n'enseigne pas que Christ est né d'une vierge. Vous pouvez refuser de croire que Christ est né d'une vierge, mais vous ne pouvez pas affirmer que la Bible ne le dit pas. Si vous dites que la Bible ne l'enseigne pas, vous étalez votre ignorance de celle-ci et de ce qu'elle affirme sur ce sujet, ou encore, vous refusez simplement de le croire. Matthieu et Luc l'enseignent. De plus, Luc était un médecin et son récit contient beaucoup de détails. Cette généalogie est importante pour plusieurs raisons. Même si je trouve certaines généalogies un peu ennuyeuses, ce n'est pas le cas de celle-ci. Lorsque J. Vernon McGee, l'auteur de ces textes, assistait à une conférence lorsqu'il était adolescent, il donna son cœur au Seigneur. Un matin, le conférencier a demandé aux jeunes combien d'entre eux avaient lu toute la Bible en un an. Personne ne leva la main. Il répéta la question une deuxième fois. Il y avait entre 200 et 300 adolescents à cette conférence. Pas un seul se leva. Il répéta la question une troisième fois. Alors il demanda aux jeunes combien d'entre eux avaient lu toute la Bible. un jeune homme leva la main timidement. Il a dit, « Je l'ai lu, mais seulement les parties intéressantes. Je n'ai pas lu les généalogies. » Tous ont ri et compris le conférencier. Ce conférencier affirma ne pas les lire lui-même. Alors, J. Vernon McGee réalisa que si le Seigneur avait permis qu'elle soit publiée et imprimée, elle devait avoir une importance quelconque. Elle devait être lue. La généalogie devant nous est particulièrement importante. Elle conduit jusqu'à Joseph, alors que celle de Luc conduit jusqu'à Marie. Notez le premier verset. Lisons ensemble. Matthieu, chapitre 1er, verset 1er. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Le mot traduit généalogie, s'il était traduit littéralement du grec, serait le livre des générations de Jésus-Christ. Cette expression est unique. On ne la retrouve pas ailleurs dans le Nouveau Testament. Si nous fouillons l'Ancien Testament pour trouver cette expression, nous pourrions penser qu'elle n'y est pas. Cependant, elle s'y trouve, une seule fois, dans le 5e chapitre du livre de la Genèse. Voici le livre de la postérité d'Adam. Genèse, chapitre 5, verset 1er. Il y a deux livres, le livre des générations d'Adam et le livre des générations de Jésus-Christ. Comment en sommes-nous venus à faire partie de la famille d'Adam? Par la naissance. Nous n'avons rien eu à faire pour cela. Ce ne fut même pas notre propre décision. Nous sommes membres de la famille d'Adam par naissance. Malheureusement, en Adam, tous ont péché, tous donc sont morts, spirituellement. Par contre, il y a un autre livre, celui des générations de Jésus-Christ. Comment devenons-nous membres de cette famille? Par la nouvelle naissance. Jésus-Christ a affirmé que nous devions naître de nouveau. Tous devions naître de nouveau. Ceci est le livre de vie de l'agneau. Nous inscrivons notre nom en mettant notre confiance en Jésus-Christ pour notre salut. Donc nous avons deux livres et nous sommes tous inscrits dans le premier, le livre des générations d'Adam. J'espère que vous tous qui m'écoutez êtes aussi dans le livre de vie de l'agneau. L'Évangile selon Matthieu nous apprend que Christ est le fils de David, le fils d'Adam. Matthieu ne savait-il pas qu'Abraham a vécu avant David? Oui, et nous le voyons clairement dans la suite de la généalogie. Pourquoi a-t-il inversé l'ordre ici? Parce qu'il présente Jésus-Christ comme le Messie, le roi, la personne qui établira le royaume des cieux sur la terre, et ceci est le plus important. Il doit descendre de David, conformément aux promesses et aux prophéties que Dieu a faites à David. Il est le fils de David, mais il est aussi le fils d'Abraham, et il est nécessaire qu'il le soit en plus d'être né dans cette nation. Dieu avait dit à Abraham qu'en lui toutes les nations seraient bénies. Dans l'Épître aux Galates, nous lisons, chapitre 3, verset 16. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance. Paul a ajouté qu'il s'agissait d'une seule descendance. Cette descendance est le Christ. Il est le fils d'Abraham. Poursuivons notre lecture. Matthieu, chapitre 1er, verset 2 à 17. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Judas et ses frères. Judas engendra de Tamar, Pérets et Zara, Pérets engendra Esrom, Esrom engendra Aram, Aram engendra Aminadab, Aminadab engendra Naasson, Naasson engendra Salmon, Salmon engendra Boaz de Rahab, Boaz engendra Obed de Ruth. Obed engendra Isaïe. Isaïe engendra David. Le roi David engendra Salomon de la femme d'Uri. Salomon engendra Roboam. Roboam engendra Abia. Abia engendra Asa. Asa engendra Josaphat. Josaphat engendra Joram. Joram engendra Ozias. Ozias engendra Joatam. Joatam engendra Akaz. Akaz engendra Ézéchias. Ézéchias engendra Manassé. Manassé engendra Amon. Amon engendra Josias. Josias engendra Jéconias et ses frères au temps de la déportation à Babylone. Après la déportation à Babylone, Jéconias engendra Salatiel. Salatiel engendra Zorobabel. Zorobabel engendra Abiud. Abiud engendra Éliakim. Éliakim engendra Azor. Azor engendra Sadoc. Sadoc engendra Akim. Akim engendra Éliud. Éliud engendra Éliasar. Éliasar engendra Matan. Matan engendra Jacob. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ. Il y a donc en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David, 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone, et 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'au Christ. Il y a 4 noms importants à souligner dans la portion que je viens de lire. Premièrement, il y a des noms de païens. C'est rare qu'on en trouve dans les généalogies, mais il y a des exceptions. La généalogie de David contient des païens. Il y a aussi le nom de 4 femmes. Les femmes n'étaient pas très considérées à l'époque. Les temps ont vraiment changé. Les femmes comptent beaucoup plus aujourd'hui. Si nous reculons de quelques décennies, les femmes prenaient le nom de leur mari. Aujourd'hui, elles conservent leur nom. La coutume a évolué. Aujourd'hui, les généalogies suivent le nom des hommes. Il arrive parfois que des hommes ont des noms si étranges qu'il serait peut-être préférable que le couple prenne le nom de la femme. Pourquoi prendre le nom de Stambologiski alors que l'époux s'appelle Tremblay ou Bouchard? Tamar est le premier nom de femme à apparaître dans la généalogie. Rahab est le suivant. Rahab ne menait pas une vie exemplaire lorsque nous l'avons rencontrée, mais elle s'est convertie et elle est devenue une personne merveilleuse. Dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, verset 31, nous lisons « C'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles, parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Elle fut inscrite dans la généalogie de Christ parce qu'elle eut la foi. » Ensuite, nous remarquons le nom de Ruth, une personne remarquable. Elle était une femme exemplaire, mais la loi l'empêchait de faire partie du peuple de Dieu, car les Moabites et les Ammonites ne pouvaient pas en faire partie. Elle ne pouvait pas faire partie de l'assemblée. Mais un jour, Boaz remarqua la jeune femme qui glanait dans son champ. Il en tomba amoureux. Ce fut un coup de foudre. Les coups de foudre se produisent, mais soyez prudents. Ne vous épousez pas trop vite, si cela vous arrive. Fréquentez-vous pendant un bon temps pour vous connaître. Cependant, Boaz a aimé Ruth, et il l'a prise sous sa protection. Il l'a couverte de son manteau. Il a introduit une païenne dans l'assemblée d'Israël. Ruth lui a demandé pourquoi elle trouvait grâce à ses yeux. Nous pouvons nous demander la même question à l'égard de notre salut. Nous sommes pécheurs. Nous nous tournons vers Christ par la foi et dans sa grâce merveilleuse, il nous sauve. Il y a une quatrième femme mentionnée, mais pas par son nom. Le texte dit « la femme d'Uri ». Nous savons que c'est Bathsheba. Pourquoi le texte ne mentionne-t-il pas son nom? Bien, le grand pécheur dans cette histoire fut David. C'est David qui a payé très cher pour ce péché. Bathsheba se retrouve dans la généalogie parce que Dieu n'abandonne pas les siens lorsqu'ils pêchent. Les siens reviennent toujours à Dieu lorsqu'ils pêchent. Une brebis peut s'échapper de la bergerie, mais le berger va toujours à sa recherche. Il ramène toujours la brebis égarée. Dieu a ramené David dans sa bergerie. Ceci est une inscription du salut. Plusieurs noms sont omis de cette généalogie. Au verset 8, nous n'avons pas le nom d'Amatsia, ni celui de Joas. Plus loin dans la généalogie, il en manque aussi d'autres. Il se peut donc qu'avant le déluge, la généalogie que nous avons ne soit pas complète. L'homme a donc probablement habité la terre plus longtemps qu'environ 5000 ans, comme le pensent certains érudits. Nous ne pouvons pas affirmer cela avec certitude. En fait, nous ne savons pas depuis combien de temps la terre a été créée. Maintenant, des scientifiques proposent que la terre est âgée de 5 billions d'années. Je pense que l'âge aurait pu être 50 billions d'années. Chers amis, Dieu fut très occupé dans le passé. Nous n'avons pas besoin de le confiner à quelques milliers d'années. Il y a un autre nom qui est omis. Au verset 10, nous lisons « Amon engendra Josias. Josias engendra Jéconias et ses frères. » Le nom de Joachim est omis. Son nom n'y paraît pas, car Dieu avait dit qu'aucun de ses descendants ne s'assiérait sur le trône de David. C'est ce que nous pouvons lire dans le prophète Jérémie, chapitre 22, versets 24 et 30. « Je suis vivant, dit l'Éternel, quand Jéconia, fils de Joachim, roi de Juda, serait un anneau à ma main droite, je t'arracherai de là. Ainsi parle l'Éternel. » Inscrivez cet homme comme privé d'enfant, comme un homme dont les jours ne seront pas prospères. Car nul de ses descendants ne réussira à s'asseoir sur le trône de David et à régner sur Juda. À cause du péché de cet homme, sa descendance ne pourra pas monter sur le trône. Joseph fait partie de la postérité de Joachim. Puisque tout fils de Joseph était exclu du trône, Joseph ne pouvait pas être le père naturel de Jésus-Christ. Il pouvait seulement lui transmettre le titre légal au trône. En devenant l'époux de Marie, qui a donné naissance à Jésus, il pouvait lui transmettre le titre légal au trône. Comme Jésus devait faire partie de la postérité de David, il fallait que Marie descende aussi de David, mais par une lignée différente. Joseph fait partie de la lignée qui passe par Salomon. Et selon la généalogie que nous retrouvons cette fois dans l'Évangile selon Luc, Nathan était un fils de David, et Marie fait partie de sa postérité. Ils sont donc tous de montée à Bethléem pour s'inscrire au recensement, car ils étaient tous deux descendants de David. Dans Deutéronome, chapitre 23, verset 2, nous lisons « Celui qui est issu d'une union illicite n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. » Même sa 10e génération n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. La parole de Dieu mentionne qu'une personne issue d'un mariage interdit ne peut entrer dans l'assemblée avant la 10e génération. Mes chers amis, il y a exactement 10 générations entre Pérets, fils de Juda, et Tamar, et le roi David. Dieu a attendu 10 générations avant d'établir un roi de la lignée de Juda sur le trône d'Israël. Saül était un Benjamite. L'exactitude de tous ces petits détails dans les généalogies confirme l'inhérence et l'inspiration des Écritures. Oui, chers amis, vous pouvez y faire confiance. Voici une autre preuve de la véracité de ces écrits. Chers amis, préparons-nous à la prochaine émission en lisant Matthieu chapitre 1er, versets 16 à 25.
Merci Régent. C'était vraiment intéressant, n'est-ce pas? Une des choses que j'aime énormément dans la leçon d'aujourd'hui, c'est de réaliser que je fais partie de deux familles selon les généalogies. Premièrement, la famille d'Adam. Comme tout être humain sur cette terre, ça prenait un premier père, d'où sont nés tous les hommes et toutes les femmes. C'est bien facile à comprendre. Et puis, malheureusement, comme Régent nous l'a mentionné, tous sont morts, parce que le salaire du péché, c'est la mort. Mais deuxièmement, et heureusement, je suis de la famille de Jésus-Christ par ma nouvelle naissance. qui a eu lieu en 1977. J'aime ça dire la date parce que ça fait longtemps, puis je m'en rappelle comme si c'était hier. Ça a été la plus belle journée de ma vie, quand j'ai reçu l'amour de Jésus-Christ. Et maintenant, je suis dans le livre de vie de l'agneau, parce que j'ai mis ma confiance en Jésus-Christ pour recevoir le don gratuit de la vie éternelle. Qui est cet agneau? Jean-Baptiste a dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde » quand il a vu Jésus. Est-ce que l'agneau de Dieu a ôté ton péché? Y a-t-il un moment dans ta vie où tu t'es reconnu coupable devant Dieu à cause du péché? As-tu reçu Jésus comme ton Sauveur, comme ton Seigneur? Fais-tu partie de la famille de Jésus-Christ, de ceux qui ont l'assurance de passer l'éternité avec lui? Cet agneau, c'est Jésus. Il a dit, « Je suis doux et humble de cœur. » Il a été ému de compassion quand il a vu Jérusalem qui était perdue. Il est ému de compassion pour toi. Tu es peut-être dans une période de ta vie où tu as besoin de cette compassion, de cette douceur qui vient de l'agneau de Dieu. Tu penses peut-être qu'il ne t'entend pas, qu'il n'est pas accessible, mais il entend le cri du cœur. Et si tu cries à lui, tu dis, « Seigneur, manifeste-toi à moi, fais-toi connaître à moi », il va le faire. Il va mettre quelqu'un sur ta route pour te dire combien il t'aime, combien il veut te sauver. Ou peut-être que c'est moi qui ai mis sur ta route ce soir. L'agneau de Dieu te dit, « Je frappe à la porte de ton cœur, laisse-moi entrer. Je suis plein de douceur, je veux te pardonner. Je veux faire de toi un enfant de Dieu. Je veux faire de toi une petite brebis. Une petite brebis qui va grandir, qui va devenir une brebis toute féconde qui va aller vers d'autres pour justement leur faire du bien à ton tour. Laisse l'agneau de Dieu toucher ton cœur. Il frappe maintenant à ta porte. Laisse-le entrer. C'est Dieu lui-même qui frappe à la porte de ton cœur en ce moment. Il parle avec douceur, il ne te forcera pas à l'accepter comme ton Sauveur, comme ton Seigneur. Mais il s'invite chez toi. Il t'offre son salut. Il t'offre ce qu'il y a de meilleur. Il t'offre le ciel. Il t'offre le ciel pour l'éternité. Laisse l'agneau de Dieu entrer.
Vous avez des commentaires? Des questions? Vous aimeriez savoir ce que la Bible a à dire sur tel ou tel sujet? Écrivez-nous! Vous pouvez recevoir par le feu même des cours bibliques que nous offrons tout à fait gratuitement, ainsi que des invitations à assister à l'un de nos merveilleux déjeuners de l'espoir, offerts à la grandeur du Québec, où vous pourrez entendre des témoignages de vie transformée par le message de la Bible. Pour en connaître les dates et les endroits où auront lieu ces déjeuners, pour nous rejoindre, un des membres de l'équipe d'Aujourd'hui l'Espoir est disponible à recevoir vos commentaires. Vous composez le numéro de téléphone suivant, 1-877-LESPOIR, 1-877-LESPOIR, ou via notre site Internet www.espoir.ca, ou bien vous nous écrivez à Aujourd'hui l'Espoir, 6640 3e Avenue Ouest, Charlebourg, Québec, le code G1H6H4. Ici Régent Joly qui vous dit à demain.
Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.